Radio Capi, grand témoin.
Bonne fête à toutes les femmes, c'est votre jour aujourd'hui et merci à tous de vous savoir nombreux près de vos postes récepteurs pour suivre Grand Témoin. Grand Témoin qui a le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui 8 mars 2008 une femme exceptionnelle. Elle est très engagée pour la cause de la femme. Elle est la deuxième vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministre parlementaire et femme en cycle. Elle, c'est Madame Béatrice Loméa Atilité. Nous lui souhaitons la bienvenue chez nous.
Merci, merci Kelly.
Alors, Madame Béatrice Loméa, quel sentiment avez-vous en ce jour où le monde célèbre la Journée internationale de la femme?
D'abord, comme femme, c'est un sentiment de fierté, puisqu'on se dit la femme représente une grande chose pour la communauté, pour la société. Et lorsque les Nations Unies ont fait qu'on puisse instituer toute une journée où on a l'occasion de se rappeler des questions qui concernent principalement la femme, je me dis que pour nous c'est une occasion de fierté et en même temps c'est un grand jour pour nous où nous devons nous mettre et nous réfléchir par rapport au combat que nous sommes en train de mener en ce qui concerne nos droits et le respect de nos droits.
Béatrice Loméa, vous êtes née un certain 24 avril, date qui coïncide avec celle de l'anniversaire de la démocratie en RDC. Dans quelle province?
Et dans la province orientale, le district de Yotouélé et dans le territoire de Wamba.
Vous êtes originaire de là?
Oui, je suis originaire du territoire de Wamba.
Parlez-nous un peu de votre enfance.
Mon enfance, c'est d'abord comme fille d'un enseignant, puisque je suis née d'une famille où le père a été enseignant jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une enfance qui a été plus tournée vers les études, où notre père insistait plus sur les études, puisqu'il nous disait toujours que c'était l'avenir et il fallait vraiment se donner aux études. Et donc j'ai connu une enfance où il y avait une attention tout à fait particulière concernant les études. Et c'est ce qui a permis que nous avions pu franchir des échelons. On a étudié aujourd'hui, on est en mesure d'exercer des responsabilités qui sont les nôtres.
Vous avez étudié dans la province orientale?
Oui, oui, l'école primaire. Je l'ai fait à Iziro. Iziro, c'est le chef-lieu du district du Yotouélé, qui est l'un des districts de la province orientale. Et les études humanitaires, je l'ai fait sur place à Iziro et l'option commerciale. Et après avoir décroché mon diplôme d'état, je suis allé à Kisangani où j'ai fait le premier cycle à l'ISC, donc les sciences commerciales. Et je suis venu terminer le deuxième cycle, donc la licence ici à Kinshasa, à l'ISC Gombe.
Et pourquoi vous n'avez pas préféré terminer à Kisangani? Vous êtes venu à Kinshasa, il n'y a pas de licence
à l'époque, l'ISC? À l'époque, il n'y avait pas de deuxième cycle à Kisangani. C'est ce qui m'a obligé de faire le déplacement pour Kinshasa et terminer le deuxième cycle.
Béatrice Loméa est mariée?
Oui, je suis mariée et mère de 3 enfants.
Vous parlez votre dialecte?
Oui, Kenny, oui.
Un petit mot dans votre dialecte à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment dans le territoire de Wamba.
Ah oui, dans le territoire de Wamba, bon, à ce moment, je veux dire aux femmes que Mone Konda Bokai, Kanana Nanane, oui, oui, c'est pour dire que bon, je vous aime beaucoup, on se verra.
Radio Capine, grand témoin.
Grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui Béatrice Loméa Atilité. Elle est deuxième vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire et femme en cycle. Béatrice Loméa, c'est depuis quand que vous êtes deuxième vice-présidente de ce réseau?
Les dernières élections, disons la dernière assemblée élective qui a mis en place le comité actuel, s'est tenue au mois de juillet, au mois de juillet de l'année passée. Et donc avant ça, j'étais d'abord membre puisque c'est une organisation qui regroupe toutes les femmes ministres et parlementaires en fonction honoraire. Et donc vous comprenez que pendant toute la transition, j'étais députée, donc déjà d'office j'étais membre. Et il a fallu donc attendre l'assemblée élective de l'année passée au mois de juillet où j'ai été élue deuxième vice-présidente.
Brièvement, dites-nous, c'est quoi ce réseau? C'est quoi cette organisation?
Bon, cette organisation, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est une organisation qui est régionale. Qui est régionale, donc il n'y a pas seulement la République démocratique du Congo, il y a toute la région subsaharienne, qui regroupe les femmes ministres et parlementaires en fonction honoraire. Et donc c'est une organisation qui a comme vision d'influencer les politiques, les lois, hein, les lois et par rapport à l'équité et à l'égalité du genre. Et nous militons également pour la paix et le développement dans le respect des droits humains. Le réseau a vu naissance. C'était à l'issue de la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en Égypte. Et donc, on avait estimé que les femmes qui ont exercé de telles fonctions hein, dans des pays étaient en mesure d'apporter une influence pour l'évolution des conditions de la femme. Et donc, c'était né et au fur et à mesure, on a commencé à installer les sections dans les différents pays de la région.
Et c'est depuis combien de temps que ce réseau existe en RDC?
C'est depuis 2004.
On ne sent pas qu'il y a un réseau des femmes ministres parlementaires.
Nous sommes là. Pendant la transition, par exemple, c'est un réseau qui s'est beaucoup investi pour que nous puissions arriver à inscrire dans la constitution actuelle l'article 14 qui parle de la parité. Il y a des sensibilisations que nous faisons par rapport à l'éveil, la prise de conscience de la femme et même par rapport aux élections. Vous savez que c'est la première fois que dans notre pays, on allait aux élections. Il a fallu qu'on puisse travailler pour informer les femmes et les sensibiliser. Et nous prenons part à beaucoup d'activités, les journées internationales qui parlent par exemple de la lutte contre le sida, l'alphabétisation. Et on est trop actifs, on est actifs.
Et combien de femmes font partie de ce réseau en RDC? Est-ce que vous avez une idée du nombre de femmes?
Oui, actuellement, on avoisine 200 femmes.
Vous savez, Madame Lumea, que beaucoup de viols se commettent en RDC,
oui.
Violences sexuelles contre les femmes.
Oui.
Et dans l'actualité, un plaidoyer sur la lutte contre les violences faites aux femmes s'est tenu au mois de février dernier, c'était le 12 février dernier, organisé par le ministère Genre, Famille et Enfants. Cette séance s'était inscrite dans le cadre de la poursuite de la campagne d'activisme contre l'impunité sur les violences sexuelles. Qu'est-ce que votre réseau fait concrètement pour mettre fin à ce fléau?
Bon, par rapport à ça, nous disons que la sensibilisation, c'est notre cheval de bataille. Je me rappelle que même pendant ces 16 jours d'activisme, nous avons organisé des conférences. Et des conférences pour interpeller les gouvernants que cette situation perdure dans notre pays et nous observons une impunité en dépit du fait qu'il y a déjà toute une loi qui a été votée et promulguée par rapport aux violences sexuelles. Et donc pour nous, nous procédons à ces interpellations pour dire aux gouvernants qu'il y a des lois qui existent et on ne peut pas continuer à laisser impunis les violences faites aux femmes, surtout ces viols, parce que vous savez, et la femme c'est la gardienne même de la vie. Donc lorsqu'on s'attaque à la femme, c'est une façon de chercher à exterminer l'espèce humaine. Donc nous procédons à ce travail de sensibilisation, d'interpellation et aussi nous encourageons les femmes qui sont victimes de ces viols parce que ça c'est aussi un autre fait. On peut avoir la loi, mais lorsque les gens qui sont concernés, les victimes ne dénoncent pas, on ne sait pas appliquer. Donc nous sensibilisons aussi aux femmes pour dire que lorsqu'elles sont victimes de ces viols, elles doivent prendre la parole, dénoncer parce que la loi existe et elles sont protégées. Vous savez que notre tradition, ça c'est un frein aussi pour l'application de la loi, parce que chez nous, on considère que lorsque, par exemple, une femme a été victime de viol, mais c'est fini, ça devient tout un problème. Et là, parfois, lorsqu'elle dénonce, elle devient la risée de toute la société. Ça devient difficile pour elle de survivre dans son milieu, et la plupart préfèrent se taire. Donc, c'est un peu notre tradition qui constitue un frein aussi. Mais on s'est dit, il faut aller au-delà de ça, parce qu'en fait, de compte, parfois, c'est la santé qui est mise en danger. Vous êtes violée, vous ne savez même pas, vous vous retrouvez dans quel état, donc il faut dénoncer. Et pour qu'on soit en mesure de réprimer ces actes et mettre fin à cela.
Comme je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes très engagée pour la cause de la femme et vous avez été même parmi les femmes qui ont réussi à faire inscrire le principe de parité dans l'actuelle constitution. En posant ces gestes, qu'attendez-vous en retour?
Oui, on s'est dit que bon, pendant tout ce temps, c'est vrai que pendant longtemps, la femme a été à l'arrière-garde, parce que comme je le disais tout à l'heure, notre tradition constituait des frais. Mais on s'est dit qu'à partir du moment où la communauté reconnaît l'apport de la femme, il était tout à fait normal que nous puissions d'abord nous battre pour avoir un garde-vous juridique, parce que vous pouvez réclamer des droits aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui vous protège du point de vue juridique, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait d'abord qu'on arrive à inscrire ça dans la loi fondamentale, et ça c'est vraiment quelque chose d'important qui a été gagné, parce que ce n'est pas tout le jour qu'on retrouve dans une constitution marquée noir sur blanc que l'État doit s'engager pour la mise en œuvre de la parité hommes et femmes. Donc ça c'était un acquis. On s'est dit, une fois que c'est gagné, maintenant nous allons nous battre pour qu'on arrive à la concrétisation. Et c'est vrai que ça ne va pas être automatique. On s'est dit, c'est un processus. Nous avons fait plusieurs décennies dans cette situation. Il faudrait également qu'on y aille pas à pas, mais l'essentiel est que les femmes comprennent que c'est notre combat et donc nous ne devons pas baisser les bras. On a la disposition dans la Constitution, mais il faut continuer à travailler pour qu'on puisse concrétiser. Même si aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'il y ait la représentation des femmes, il faut que les femmes d'abord elles-mêmes s'engagent. Lorsqu'il y a par exemple les élections et les femmes ne se présentent pas, vous voulez qu'on aille prendre les femmes où? Donc ça, c'est la balle qui est renvoyée dans notre camp. Et c'est un pas qui a été marqué, mais nous devons y travailler pour sa concrétisation.
Est-ce que c'était facile pour les femmes de faire accepter ce principe de parité dans la Constitution?
Ça n'a pas été facile et je me rappelle encore, pendant la transition, là, sur les 500 députés, nous étions une soixantaine. Mais nous avons procédé par une campagne d'explication. On a fait voir aux hommes comment les femmes ont contribué à assurer la survie de la famille dans ces pays pendant un moment difficile. Et donc, il était injuste de ne pas reconnaître aux femmes ces droits-là. Il était tout à fait normal qu'ils puissent accepter qu'on inscrive. Mais nous disions que c'était un processus. Nous allions nous engager pour y travailler. Et donc, les hommes, bien qu'ils étaient nombreux, nous, on représentait à peine un dixième des députés. Mais ils ont fini par comprendre. C'est un article qui est passé, bien que les femmes étaient minoritaires à l'Assemblée nationale. C'est pour ce qu'il y a des hommes qui comprennent qu'il y a l'apport de la femme est vraiment indispensable pour le développement de la communauté.
Radio Capi, grand témoin.
Béatrice Lomea Atilité, deuxième vice-présidente du réseau des femmes africaines ministres parlementaires, REFOMP en sigle, et aujourd'hui l'invitée des grands témoins. Béatrice, parlons un peu de votre parcours professionnel. Après vos études universitaires, vous avez
j'ai un parcours qui est très long. Oui, j'ai enseigné.
Oui, dans quelle école?
J'ai enseigné dans une école qui se trouve à Issiro, là où j'ai fait mes humanités commerciales. J'ai enseigné pendant une année et demie. Après l'enseignement, j'ai travaillé comme chef comptable dans une entreprise sucrière en province orientale qui n'existait plus aujourd'hui. C'était les compresses sucrières de l'Otokila. Et après, je travaillais un peu dans une rédaction d'un journal aussi.
La référence plus,
et après je suis entrée dans une entreprise et qui est devenue aujourd'hui le CSC actuel, c'était le Centre National d'Expertise. Donc c'est une entreprise qui s'occupait de l'exportation de matières
grossières.
Oui, à l'époque comme agent délégué. Et pendant qu'on était là, il y a la guerre qui a déclenché dans notre pays. En même temps, j'ai milité dans la société civile, dans les organisations féminines. Et c'est alors que je vais être élue par mes pères pour représenter les femmes de la province orientale au dialogue intercongolais. Et je suis allée aux négociations et après les négociations, je me suis retrouvée à l'Assemblée nationale comme députée. Et c'est là où je suis restée pendant tout le temps de la transition. Et bien qu'avant ça, j'ai réintégré l'entreprise ici à Kinshasa, les CEC, et donc à l'Assemblée, je suis allée en détachement. Et je suis restée là jusqu'à la fin. À la fin, j'ai été d'ailleurs candidate aux élections aussi. Et après les élections, je me suis retrouvée...
Vous parlez de quelles élections, là? Législatives?
Les élections législatives.
Ouais.
Oui.
Et bien ça n'a pas été?
Ça n'a pas été, pas parce que je n'ai pas été votée, mais parce que, bon, le système n'était pas très, très, très bon. J'ai eu plus de 14 000 voix.
Donc,
comme
circonscription?
De Ouamba, chez moi.
Chez vous, oui.
Oui, comme c'était un système proportionnel où l'avantage donné était donné à la personne qui venait en tête de liste, c'est comme ça que je n'ai pas été proclamée élue. Et après, je suis entrée au gouvernement comme vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Eh bien, voilà.
Vous avez assumé jusqu'en février 2007.
Jusqu'à février, donc jusqu'à l'entrée du premier gouvernement, du premier ministre Kizinga.
Et en dehors de vos fonctions au réseau des femmes ministres parlementaires, il fait signal à nos auditeurs que vous êtes aussi administrateur à la COHYDRO.
Oui, je suis administrateur à la COHYDRO et je suis également cadre au CEC, qui est le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses.
À la COHYDRO, vous avez passé les tests comme tout le monde pour être
Non, il faut distinguer deux catégories d'administrateurs. Il y a ceux qui sont dans les comités de gestion, ce sont les administrateurs qui sont actifs. Et là, je suis administrateur. Donc membre du conseil d'administration. Et donc, ceux qui gèrent au quotidien, ce sont plutôt ceux qui sont dans le conseil d'administration. Et là, nous venons lorsqu'il y a les réunions du conseil d'administration.
Vous allez rester avec nous. Nous allons prendre quelqu'un au téléphone. Allô?
Allô?
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
C'est monsieur.
C'est monsieur Jackie Atula.
Ah. Oui, monsieur Jackie Atula, madame Béatrice Lomea est surprise. Vous allez bien, monsieur?
Oui,
alors monsieur Jackie est le mari de madame Béatrice Lomea.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre femme? Comment vous la trouvez?
Bon, ma femme, je la trouve vraiment une femme, une grande femme, n'est pas une grande dame. Depuis qu'elle a commencé ses activités, d'abord, les associations et puis les autres activités politiques, vraiment, elle est vraiment une grande dame.
Est-ce que vous l'accompagnez dans tout ce qu'elle fait, vous l'encouragez?
Oui, oui, je crois bien qu'elle peut me témoigner elle-même. Je suis son premier conseil dans tout ce qu'elle fait. Depuis qu'elle a commencé en 2000, les associations, jusqu'à passer par les partis politiques, le gouvernement, même les entreprises, pas tout ça avec elle.
Vous ne trouvez pas que c'est dangereux pour elle, pour une femme, de faire la politique, d'être très active dans la politique comme ça?
Bon, c'est pas trop dangereux parce que c'est mon mieux. On a raisonné ensemble au début là. Bon, j'ai autorisé malgré les problèmes de la famille. J'ai confiance en ma femme. C'est pourquoi je l'ai autorisé. Depuis que je l'ai autorisé, je ne vois aucun inconvénient. Parce qu'elle est toujours mère à la maison. Et puis, de l'autre côté, elle travaille comme activiste et comme politicienne.
Est-ce qu'elle s'occupe bien de la maison?
Je veux vous dire qu'elle est d'abord femme. À la maison, elle est femme. Même quand elle est ministre, elle peut parler son fou calmement, elle veille sur ses enfants calmement. Dès qu'elle sort de la porte, elle est ministre. Elle est ce qu'elle est.
Quelle chanson pouvez-vous dédier à votre femme?
Une chanson.
Oui, une chanson que vous pouvez lui dédier.
Bon, comme elle est grande dame, je peux mettre, si possible, Magali.
Ok.
Magali Amadilou.
Ok, la technique me fait signe qu'on peut retrouver la chanson Magali. On va l'écouter pour le plaisir de madame votre épouse.
Ok, merci, merci.
Allô, monsieur Jackie?
Allô?
Oui, madame, ici, n'en revient pas. Hein? Elle croit pas que c'est vous qui êtes au téléphone. Alors, ça vous fait penser à quoi cette chanson de Magali?
Bon, tu vois, c'est une grande dame, hein? Ça me fait penser beaucoup de choses.
Mm-hmm.
En un cas, c'est ma femme, j'ai cette fierté d'être appelée papa ministre à côté de ma femme, ça me fait mal à la joie.
Ah.
Je vous appelle souvent grande dame.
Ah, d'accord.
Magali Mokoumsi.
Béatrice Lomaire, vous avez quelque chose à dire à votre mari?
Ah oui, c'est vraiment une grande surprise. C'est un autre témoin à côté d'un témoin qui passe dans l'émission Grand
non,
Témoin.
Vrai,
donc je
vraiment.
Suis vraiment, je n'ai pas de mots.
Ok, on va continuer à écouter la chanson.
Mama, I'm going to go to the hospital.
Monsieur Jacquier.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention dans notre émission Grand Témoin. Je ne sais pas si vous avez encore un petit mot à dire.
Bon, je perds un petit mot pour dire bonne fête à toutes les mamans de la République démocratique du Congo, en particulier dans le monde en général. Nous demandons d'être courageuses comme le confirme ma femme Béatrice Combert, d'être une grande actrice, une grande balère, ensemble de tous les deux à la fois, et le métier et le foyer.
Je crois qu'elle a compris. Merci beaucoup et au revoir. Hein.
Ah, merci à vous, madame. Merci.
Radio Capi, Grand Témoin.
Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui Béatrice Lomea, Atilité. Elle est deuxième vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire. Nous allons parler actualité.
Oui.
Vous savez quand même l'actualité du pays,
l'évolution. Si, quelle est.
Oui, vous savez que le CNDP de Laurent Kunda avait quitté le processus de paix. Mais ils sont revenus.
Ils sont revenus, oui.
Oui. Et maintenant, là, c'est le groupe Mai Mai, les Kassidia, Virondo et le groupe Kifuafua, signataire de l'acte d'engagement pour la paix, qui se retire aussi à leur tour. Dans un communiqué, ces Mai Mai dénoncent les violations du cessez-le-feu et le renforcement des troupes du CNDP dans certaines localités qui constituent, selon eux, une menace sérieuse du processus de paix. D'autre part, ces groupes Mai Mai se disent exclus dans la gestion du programme Amani et accusent les facilitateurs du gouvernement pour la mise en place des organes de suivi de la conférence d'être partial dans sa collaboration avec des groupes armés signataires de l'acte d'engagement. Nous allons suivre Didier Bitaki, il est porte-parole du groupe Mai Mai Kifafa. On va l'écouter.
L'acte d'engagement, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, on dit nous devons nous abstenir de tout propos de nature à inciter la haine ou alors à proférer des menaces contre les uns et les autres afin de ne pas remettre en cause le processus de paix. Mais nous avons fait l'objet de menaces, nous appellent des impolis, je ne sais de quoi, en deuxième lieu. L'acte d'engagement prévoit que nous devons éviter tout nouveau recrutement, toute hostilité possible. Nous allons constater que même l'acte d'engagement où on disait que les détenus pour délit d'opinion ou appartenance à des mouvements insurrectionnels devraient bénéficier immédiatement d'une liberté conditionnelle. Mais ils sont toujours à Kinshasa pour la simple raison qu'ils sont Mai Mai. À ce niveau-là, nous avons dit, bon, c'est inacceptable ça. Il faudra que nous puissions nous retirer pour éviter le pire qui a pris au pied nos prédécesseurs.
Madame Béatrice Lomea, si chaque fois des groupes doivent se retirer du processus de paix, est-ce que vous pensez que quelque chose de positif pourrait sortir de cette conférence qui a eu lieu à Goma pour le retour de la paix dans le Grand Lac?
Nous sommes vraiment désolés parce que moi je me dis, lorsque vous considérez même les thèmes nationaux des journées de la femme, on nous dit investir dans la paix.
Oui.
Investir dans la paix et la justice pour la protection et l'autonomisation de la femme et de la fille.
C'est ça même le thème retenu pour la journée de la femme.
Pour la journée, je me dis que parce que des comportements pareils vont à la contre de ce qui est capital pour la reconstruction de notre pays. Et moi, je n'ai jamais compris cette maladie qui caractérise les Congolais. Chaque fois qu'on signe des accords, les gens ne veulent pas respecter. Et moi, je me dis que la paix n'a pas de prix. Vous savez que depuis que les gens entretiennent cette confusion à l'est du pays, il y a des milliers de gens qui sont morts gratuitement, innocemment, les gens qui pouvaient encore contribuer à la réconciliation de notre nation. Maintenant qu'on a trouvé une voie de sortie, je n'apprécie pas qu'il y ait toujours des groupes qui essaient de faire des chantages de gauche à droite, pendant que ce sont des vies humaines qui sont sacrifiées. Et donc moi je me dis qu'il y a, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, parce que nous ne pouvons pas nous passer de la paix. Aussi longtemps que nous n'avons pas la paix, quels que soient les coins concernés dans les pays, on ne peut pas redémarrer, parce que ça sera un souci permanent. On va toujours chercher à savoir comment retrouver la paix à l'est du pays. Et donc, nous allons rappeler toutes les composantes qui ont signé cet accord au bon sens pour qu'ils mettent l'intérêt national au-dessus de les intérêts particuliers, puisque le plus c'est ça, chacun est en train de voir comment je vais survivre si je lâche ça. Non, l'intérêt national est au-dessus de ça. Et les vies humaines qui continuent à être sacrifiées jusqu'à aujourd'hui ont un prix et ont une importance pour la nation congolaise. Donc nous les rappelons au bon sens et pour que tout le monde s'implique et que la réalisation de cet acte soit une réalité. Nous n'avons pas de choix, il faut que la paix, il faut qu'on espère, puisque si on n'a pas la paix, on ne peut pas prétendre à un quelconque développement. Et aussi, le temps que la région sera déstabilisée, et il faut savoir que nous ne pouvons pas avancer. Donc c'est vraiment important que les gens comprennent ça comme ça, et qu'ils mettent un peu les ambitions de côté, et qu'ils voient l'intérêt de la nation congolaise.
Madame Béatrice Omeya, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de la clôturer, nous allons revenir sur le thème national de la Journée internationale de la femme.
Ouais.
Le thème national, c'est investir dans la paix et la justice pour la protection et l'autonomisation de la femme et de la fille. D'après vous, comment cela peut se faire?
Bon, c'est là, je prends par exemple un secteur, l'éducation.
Mm-hmm.
Lorsqu'on dit investir, c'est lorsque vous mettez des moyens dans quelque chose et vous attendez des dividendes. Et je me dis qu'aujourd'hui, il a été constaté qu'au fil des temps, l'éducation de la jeune fille a été léguée à la deuxième position. On donnait plus l'importance à l'instruction du garçon. Et on s'est rendu finalement compte que lorsqu'on instruit la fille, il y a quelque chose d'important que la communauté gagne. Je me dis par rapport à l'éducation, aujourd'hui, notre nation a tout intérêt à investir dans l'éducation, l'instruction de la jeune fille, puisque les dividendes ne vont pas tarder. Lorsqu'une fille est instruite, bien éduquée, elle a les atouts naturels, les prédispositions pour bien gérer la chose commune, et donc nous pouvons prétendre à un développement dans un délai qui soit relativement court. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, si on investit par exemple dans l'éducation, nous pouvons nous attendre que la contribution de la fille et dans les jours à venir va permettre à notre pays de se relever. Et lorsqu'on parle de la paix et la justice, je me dis, vous avez vu comment la femme s'est investie pour le retour de la paix dans notre pays. Depuis les dialogues, depuis tout ce temps, lorsque les hommes étaient prêts à se déchirer, à balkaniser ce pays, la femme jouait ce rôle de rappel à l'ordre pour dire que tout ce que nous avons de commun, c'est que nos ancêtres nous ont légué ces territoires. On ne peut pas les sacrifier comme ça. Donc nous avons besoin de la paix aussi pour bien travailler, mais aussi nous avons besoin de la justice. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'abus qui se sont commis dans notre pays, et aussi longtemps qu'on va continuer à observer l'impunité, c'est une façon de perpétuer ces actes. Et donc aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de la paix pour que la femme se prenne en charge, pour que nous puissions apporter notre contribution au développement de la nation congolaise, mais également besoin de la justice, parce que sans la justice, rien ne peut marcher. Donc je me dis que c'est un peu ça, il faut que la nation investisse dans la femme, pour que la femme en retour pourra donner quelque chose qui va contribuer au développement de la nation.
Mais apparemment, on remarque que les messages que vous lancez aux femmes, les femmes doivent se prendre en charge, la femme doit dénoncer. Vous vous limitez dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez aux femmes qui sont dans les villages?
Non, nous, en tout cas, on a toujours prêché pour qu'on aille plus bas. Moi, je vous ai dit, je suis du territoire de Wamba. Pendant tous ces temps, en tout cas, nous, on a toujours programmé des descentes à la base pour passer également les messages, parce qu'on ne doit pas considérer qu'on doit s'arrêter aux femmes qui sont dans les centres-villes, qui sont déjà suffisamment informées,
uh-huh.
où il y a des moyens, il y a des médias, mais à l'intérieur, parfois, vous trouvez des coins, il n'y a même pas une radio, il n'y a pas de télévision. Donc, ça, c'est aussi une interpellation pour les groupes de femmes qui ont déjà compris que nous devons faire ce travail, d'aller vers la majorité qui est sous-informée aujourd'hui, qui est analphabète, pour donner l'information, pour que les femmes, pour qu'ensemble nous puissions nous mettre debout et espérer avoir un résultat qui soit positif.
Donc on peut espérer que le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, ira jusque dans les recoins.
Absolument, absolument, avec la structure administrative de notre pays actuellement, où nous avons des assemblées provinciales, donc d'office, nous avons déjà les réformes au niveau des provinces. Et donc les députés et les ministres provinciaux, femmes, auront ce travail que nous pouvons faire ici à Kinshasa, mais cela ne nous empêche pas, nous aussi, de programmer des descentes à l'intérieur pour procéder à cette vaste sensibilisation.
Mm-hmm. Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Béatrice Lomeya Atilité, deuxième vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Merci à Guy-Roger Nyampala qui a réalisé cette émission et à Héritier Sidiakala qui était de l'autre côté de la technique. Cette émission est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, où vous avez aussi la possibilité de voir les invités de Grand Témoin et aussi de réécouter les émissions passées des Grand Témoin. Merci et encore bonne fête à toutes les femmes.
Merci, bonne fête.